mélodie souterraine. L'émission de la médiathèque Maurice Genevoix sur Studio Zef avec Jérôme et Thomas.
Attends. Laisse tourner le vinyle.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mélodie Souterraine. C'est la rentrée aussi pour cette émission des bibliothèques Aglopolis. Salut Jérôme.
Salut Thomas.
De retour en studio donc pour une nouvelle saison de Mélodie Souterraine. Tu nous rappelles rapidement le principe pour les nouveaux et nouvelles auditeurices.
Ouais, et bien du coup, mon parti pris c'est de chiner dans nos réserves.
Dans les collections des bibliothèques.
Des bibliothèques, voilà. Rayon musique. Mm-hmm. Et voilà, où ça abonde de galettes.
Quelques dizaines de milliers de disques.
Exactement. Et du coup, c'est vraiment... à chaque fois, je me régale parce que finalement, je me dis, mais c'est un puissant fond, hein, quelque part. Parce qu'il y a toujours, à la fois entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Du coup, je suis souvent amené à tomber sur des disques où la pochette m'intrigue. Du coup, je la remonte. Je remonte l'album en question. Et puis, voilà, j'en fais une écoute et je me dis, waouh, bah ça, si, il faut absolument qu'on en parle à nouveau. Il faut qu'on diffuse un extrait. Voilà,
au-delà d'écouter de la musique qu'on a peu entendu parce que c'est des albums donc qui ne sont plus accessibles, qui ne sont plus dans les bacs. On redécouvre l'objet physique, hein. On parle souvent des pochettes, des livrets, des paroles éventuellement. Voilà, il y a aussi la réhabilitation de l'objet physique. On rappelle aussi que vous avez désormais une collection de vinyles qui est accessible.
En parallèle, oui, on offre aussi un bon éventail de disques. En vinyle.
Tout ça et comme tu le rappelles régulièrement, des choses qui ne sont souvent ou pas toujours en tout cas accessibles via les plateformes de streaming.
Ouais.
Donc c'est aussi important, vous êtes complètement dans votre rôle de défricheur et de passeur de culture, de pouvoir proposer des artistes qu'on ne trouve plus, qui ne sont plus accessibles, même des fois sur YouTube, c'est pas forcément évident de retrouver les artistes dont tu parles.
Exactement. Et bien d'ailleurs, je rebondis parce que j'ai une collègue qui m'a fait une remarque en me disant que le disque aussi avait aussi encore, ça c'est un autre argument pour redonner un peu ses lettres de noblesse au support.
Ouais.
Elle disait que le CD, bah, en fait, c'était bien parce que, justement, à l'instar d'écouter... contrairement à YouTube, par exemple, où on peut écouter en effet un bon nombre d'albums qui peuvent être mis en ligne, mais là, on n'a pas la publicité.
Ouais.
Et elle me disait, au moins... Ça, c'est un des atouts aussi du support. Bon, il y en a d'autres, mais ça, je les ai déjà un peu énumérés au fil du temps, dans ce cadre-là. Mais n'empêche que, oui, quand elle me l'a dit, je me suis dit, oui, aussi.
Ouais. Et moi, j'ai gardé aussi cet aspect d'écouter des CD, notamment dans la voiture, où j'ai encore des lecteurs de CD dans la voiture.
Et c'est de plus en plus
j'alterne
difficile.
J'alterne entre... Hein. Oui, mais par contre, le lecteur CD des voitures tend à disparaître également.
Il a carrément disparu, d'ailleurs. Moi, j'ai encore une auto. Ouais. J'ai une auto, là, où j'ai encore un lecteur cassette.
Oui, tu me l'avais dit déjà.
c'est encore un peu plus difficile de trouver ce support. Mais bon, bref, voilà.
Ouais. Physique et des découvertes issues des fonds des collections de la médiathèque.
Des bibliothèques. Oui, c'est pas que la médiathèque, c'est
tout
le réseau.
Oui, tout à fait. Exactement.
Toutes ces collections appartiennent au réseau des bibliothèques.
Voilà. Et pour cette saison, dernier élément, et ensuite on plonge dans le vif du sujet, tu l'as déjà fait dans les saisons précédentes, mais tu as vocation à venir avec du monde. Ce sera le cas pour déjà la prochaine émission.
Ah oui, j'allais dire à la fin. Il y aura un invité mystère.
On n'en dit pas plus, mais voilà.
Le mois prochain, et je pense que dans
tu as planifié d'autres émissions invités.
Oui, c'est bon.
Cette volonté-là pour cette...
D'ouvrir, ça permet d'ouvrir d'autres...
De créer de l'échange entre toi et ton invité pour...
musique.
Tout à fait.
Et puis des discussions, échanges.
Mais toujours de rester subjectif, parce que c'est aussi ça qui fait notre force ici à Studio Zef. On ne prône pas l'objectivité, mais la subjectivité passionnée. Et on espère qu'il se transmet. Ce que l'on peut écouter avec plaisir. Et ben voilà.
Et ben oui. Alors tu disais, oui, c'est la rentrée. Mmh. Ah, alors, du coup, à partir de ce fait-là, moi j'ai opté pour une sélection là, plutôt de titres plutôt énergiques, qui donnent. En fait, l'idée c'était j'avais ce mot à la tête, en tête, pardon, la force. Je voulais donner, j'ai envie de donner de la force, du peps, du tonus, parce que je pense que les rentrées, c'est jamais forcément une période la plus enjouée. Enfin, il y a quand même, voilà, les vacances sont un peu derrière. Tout le monde reprend ses activités. On reprend un rythme un peu plus frénétique. Et je me suis dit, bah ouais, non, je vais tâcher de composer une sélection avec des morceaux
un peu joyeuse et
donnent la pêche,
et tonique.
Voilà.
Très bien. Alors, ils ont l'air marrants, tes gars, là, pardon. Vas-y, fini. Vas-y, non, continue, pardon. Je pensais que t'en avais enchaîné.
Après, oui, alors, je couperai. On va débuter plutôt façon un peu légère, mais ça sera parfois assez musclé et parfois en mode guerrier. Mais voilà, c'est pour donner, donner de l'élan en ce début du mois de septembre.
Et donc, parle-nous de ce trio qui m'a l'air, fort rigolo, j'ai l'impression.
On débute avec... tiens, un bon exemple d'un... Alors, je ne connaissais aucunement jusque-là.
Ouais.
Ce groupe s'appelle The Hellcasters.
The Hellcasters.
Alors, Hellcasters, je pense, en écho, c'est un clin d'œil, je pense, à Fender, à la marque de guitare Fender.
D'accord.
Pour ses modèles Telecaster,
okay.
Stratocaster.
Ok, ouais.
Parce que Hellcasters, en fait, c'est trois guitaristes virtuoses, qui, je pense, c'est plutôt, on les considère plus comme des musiciens de studio.
Ouais.
Hein, voilà. Bon, moi, j'avoue, je les connais aucunement, même si je prends chacun de leurs noms. Mais voilà. Et du coup, honneur à la guitare. Et c'est bon comme tout. Ça emprunte à un bon nombre de musiques nord-américaines. Je pense que c'est aussi... peut-être, il y a eu des guitaristes aussi dans les années 60 qui ont mis la guitare en avant, en fait, où la guitare, finalement, remplaçait la voix.
Mm-hmm.
Où on était dans des formules instrumentales comme Duane Eddy, Link Way aussi. Et je pense même aux Shadows, hein, la guitare d'un coup jouait la mélodie et tout au long de la chanson. Donc là on est un peu dans cette même aspect. Et bien écoutons finalement un extrait.
On écoute donc The Hellcasters. Je pense qu'il y a un E, donc c'est pas The Hellcasters. Je
non.
pense que c'est The Hellcasters. Il y a un E entre le L et le Casters. L'album s'appelle Escape from Hollywood et on écoute Danger Man. C'est parti. Eh bien, moi, j'ai entendu avec The Hellcasters le bluegrass américain. J'ai entendu aussi un peu Dire Straits. Effectivement, hein, toute la musique, une bonne partie de la musique nord-américaine a été convoquée dans ce trio de guitaristes excellents.
Oui, oui, oui. Un petit penchant rockabilly.
C'est ça, ouais, ouais.
Countryzant, etc.
Tout ouais, à ouais, fait, ouais, ouais.
Il y alors, ne pas, de, confondre avec les, ne pas confondre avec les Hellcopters, pardon.
Ok.
Bon, parce que ça sonne pareil presque, mais Hellcopters, qui est une formation de norvégienne, je crois.
Ok.
Qui baigne dans le punk, me semble-t-il.
On vient donc d'écouter The Hellcasters Escape from Hollywood. Et on
alors,
enchaîne.
D'ailleurs, on parle
non, vas-y,
punk,
on enchaîne pas.
Du coup, on enchaîne avec une formation nommée Mariachi El Bronx.
Alors là, un bel exemple d'objet physique et notamment trompeur, parce que si je m'en réfère à la jaquette, moi je te dis, oh bah tu vas me faire écouter un gros son hip-hop, des mains noires, des gros colliers en or, voilà, des ongles bien propres, bien brillants. J'ai l'impression qu'on a une photo d'un rappeur américain classique.
C'est vrai.
Quoi.
Ouais, ouais. Mais
alors
je pense que la formation baigne un peu dans cette culture, enfin forcément.
Et après, si on regarde le titre, Mariachi El Bronx, j'imagine que tu vas m'emmener vers quelque chose de très hybride.
C'est un projet annexe d'un groupe qui s'appelle The Bronx.
The Bronx, d'accord.
Voilà. Et The Bronx, je faisais un lien avec le punk, parce que The Bronx, c'est vraiment une formation punk rock, à l'instar d'un Rancid, par exemple.
Ouais.
Qui sont... Alors, attention, ne pas comment dire, être trompé par leur... dénomination, ils ne sont aucunement de New York et du Bronx. C'est un groupe...
Ah, et donc de surprise en surprise, tu m'emmènes.
Ok. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom? J'en sais rien.
Ouais.
J'ai pas,
t'as pas creusé
plus
que ça.
Je pas approfondi sur ce point-là, mais bon, voilà, en tout cas... Et là, en l'occurrence, alors, je pense qu'ils ont des origines hispaniques et latino.
Ouais.
Du coup... Mariachi.
Bah pareil, hein, l'ambiance de des photos et de la direction artistique rappelle El Día del Muertos, etc. Hein. Il y a beaucoup de choses qui rappellent le Mexique et
oui,
tout ça.
Ok. Bah voilà. Ouais.
Et des choses hispanisantes, ouais.
C'est ça. Bah donc je pense qu'ils ont voilà, ils ont certainement des racines de ce côté-là. Donc là, c'est un projet vraiment ancré dans l'univers mariachi.
Ouais.
Donc on va entendre des trompettes hein, et des guitares pincées. Voilà. Mais c'est pas plus punk que ça, mais ça vaut le détour.
Eh bien, on écoute donc Mariachi El Bronx et le morceau s'appelle Hating Roses.
Oh,
c'était donc un mariachi El Bronx. Effectivement, quelque chose d'assez puissant, mais aussi voilà, qui tend vers le folklorique, les trompettes, les guitares hispanisantes.
Ouais, une forme assez traditionnelle finalement. Ouais. Bah, ils ont quand même trois albums à leur actif avec cette formation. Donc,
c'est assez chouette.
Même, ils ont des choses à dire en puisant dans ces contrées.
Du mariachi punk.
Voisine des États-Unis. Eh bien, on va quitter la Californie ou voir le Mexique pour Dallas, au Texas, avec un power trio qui se nomme Reverend Horton Heat, et qui, alors eux, sont complètement ancrés dans le genre rockabilly.
Ok.
Voilà, à la Stray Cats peut-être pour les plus connus sur la terre entière, mais ils ont une discographie, en fait je m'en rendais pas tant compte, mais bon, ils sont toujours d'ailleurs en tournée,
ouais, en activité
voilà. Mm-hmm. Une longue carrière déjà.
Okay.
15 albums au total, et là donc j'ai extrait un titre du 10e album. Et bah, ça envoie, c'est bon, une contrebasse slapée, et puis ça turbine. Alors le titre en question, est-ce que tu peux nous le rappeler ?
Oui, bien sûr, Death Metal Guys.
Ah oui, alors moi j'ai pas un anglais super fort, donc je ne sais pas s'ils s'en prennent après les amateurs de death metal,
ouais,
dans leurs paroles, mais on va l'écouter, puis on tâchera de déchiffrer.
Exactement, Reverend Horton Heat. L'album s'appelle Laughing and Crying, donc on rit et on pleure, avec encore une fois un superbe objet, un clown américain en tenue de cow-boy qui rit sur la jaquette frontale et qui pleure donc à l'arrière du CD, donc c'est assez drôle à voir. Et donc on écoute Death Metal Guy.
May be insane, but rock the metal guys, they don't eat brain. Those death metal guys, they like to wear black. They like to draw pentagrams on their back. They like headbanging. Those death metal guys. Rock the metal guys like hot rod cars. They like hot will grow long hair. We're green.
On aura bien compris le titre de la chanson Death Metal Guys, donc de l'artiste Reverend Horton Heat, et l'album s'appelle Laughing and Crying. Ça pulse. Et on reste dans le métal. Tu m'as tu m'as choisi un morceau qui a encore le mot métal dans le tout ça. Donc c'est pour je te taquine.
D'accord. Bah là, disons, titre à venir. Donc là, d'une formule trio, nous allons passer à un duo, et ni plus ni moins une basse et une batterie, sous le nom de Latin Bolt. Alors, on reste toujours aux États-Unis, mais je crois qu'on va y rester toute l'heure. Là, on est du côté de Rhode Island. Et Latin Bolt, attention quand même, j'avertis, parce que c'est corrosif, à souhait. Assez foudroyant, saturé, ça décuple, même s'ils sont que deux, c'est assez assez terrible, mais terrible dans le bon sens du terme. Et c'est, il y a un côté, alors ce qu'on pouvait, si on peut, on pourrait utiliser d'une étiquette, ce qu'on pouvait nommer ce qu'on nomme encore peut-être le math rock. C'est-à-dire ce côté rock mathématique, c'est-à-dire des rythmiques complètement obliques, déstructurées, où ça change de tempo à toute vitesse, etc.
Ouais.
Math rock. En France, il y a un groupe d'ailleurs qui joue dans cette veine qui s'appelle Pneu, je crois. On est là, quoi. Et puis aussi, je dois évoquer quand même cette formation japonaise incroyable, qui a peut-être même amené le genre ou inventé cette formule qui est les Ruins. Voilà.
Okay.
J'ai dû en parler peut-être. Bon, enfin bref, les Ruins, ouais.
Ok.
Avec Tatsuya Yoshida à la batterie. Latin Boat et.
On écoute donc le morceau The Metal Heist. L'album s'appelle Fantasy Empire. J'ai encore une fois un très bel objet dans les mains, une pochette cartonnée assez intrigante, avec à la fois des choses très très pâles, un peu en noir et blanc sur la jaquette, et puis des choses très colorées à l'intérieur. Et un très beau dessin de chauve-souris sur la petite pochette carton à l'intérieur qui contient le CD. Donc c'est un très bel objet. On écoute The Metal Heist. vient donc d'écouter Lightning Bolt avec le morceau The Metal Heist.
Finalement, à la réécoute, là, je me dis, ben, c'est... Bon, c'est peut-être le morceau le plus droit.
Ok. Hein,
parce que c'est quand même davantage chaotique sur l'ensemble. Voilà. Mais bien, bien, bien. du coup, ben de là, on s'en va à Seattle. Alors, avec une formation, je ne sais pas comment on prononce tant ce nom.
Pour moi, c'est Unearth.
Unearth, ouais. Ok. Sauf qu'il y a le tréma, il est après... Enfin, pas le tréma, le...
Unearth. Unearth, ouais. Je, écoute...
Après, c'est U-N-E,
ouais.
Accent... Enfin, accent... oui.
Oui, effectivement, apostrophe, ouais.
Apostrophe, ouais. A-R-T-H, bon.
Ouais. Unearth, peut-être, ouais.
Écoute, j'ai cru comprendre que c'était un seul... et unique album de la part de ce groupe.
De cette formation.
Qui ont éclos en plein boom grunge.
Ouais, ok.
Voilà, bah, Seattle oblige. Hein. On était en plein dedans, là, en 93. Donc, ce groupe, en fait, à l'écoute du disque, ouais, on va l'entendre tout de suite. Hein. On est sous perfusion nirvanesque et...
La seule photo de l'objet, c'est un pied, une vieille basket dans un jean qui appuie sur une pédale classique branchée. Donc effectivement, on est dans là, les potards sont poussés, je pense.
Ouais,
ouais, on est d'accord.
C'est finalement à cette époque où la guitare est revenue sur le devant de la scène. Mais bon, l'album vaut vraiment le détour. Et pour tous les amateurs de ce genre-là, je recommande chaudement.
Ok.
Et donc, ni plus ni moins, nous allons écouter la première chanson de cet album.
Eh bien, on écoute Unearth ou Unearth, je ne sais pas. Très belle jaquette aussi. Le titre est magnifique et l'accord avec le dessin de jaquette est superbe. Un avion crashé au milieu un avion en flammes crashé au milieu d'un cimetière. Et le titre Everything was beautiful and nothing hurt. Tout était beau et rien ne faisait mal. Donc, on voit bien la dichotomie entre les images et les paroles. C'est très beau. On s'écoute donc. Unearth. We'll be right back. On vient donc d'écouter le morceau Unhurt. Unearth, advienne que pourra sur la prononciation du nom du groupe. L'album, je ne l'ai pas précisé, s'appelle Seeds. Et donc, Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. C'était pas l'album, c'était le morceau qui s'appelait Seeds. Voilà. Et bah oui, hein, le grunge à plein tube, les potards bien montés et une énergie diabolique.
Ouais, complètement. Et en fait. En reparcourant les notes de pochette, oui. Le producteur de l'album, c'est ni plus ni moins Jack Endino. Et c'est vrai que là, je reprends des infos, mais c'est la personne qui a vraiment fait en sorte qu'on découvre toute cette scène.
Au la début scène grunge des années
90
de Seattle.
À Seattle même, notamment à travers le label Sub Pop.
Okay.
Et du coup, là, je lis qu'en effet, il a aussi produit Mudhoney, Tad, Soundgarden et même Nirvana, donc à leur tout début.
Ok,
donc,
le pape du grunge, quoi.
Ouais, Jack Endino.
Ok.
Voilà.
Et bah, c'est noté. Merci pour l'info.
Pour lui, qui est toujours actif. Hein,
ok, super. On enchaîne hein.
Oui. Direction Long Island.
Ouais.
Avec un groupe appelé Glass Joe. Alors là, on est voilà encore une veine rock bien trempée. Au début des années 2000.
2002, nous sommes.
2002 exactement, ouais. Et alors, je parlais de producteur rebelote. Là, en l'occurrence, il s'agit de Ross Robinson qui a produit cet album. Alors, Ross Robinson, c'était, c'est encore, il est toujours aussi, convoité, mais c'est lui qui a fagoté, forgé les sons des premiers albums de Korn.
Ouais.
Okay. Et donc, voilà, quand il y a eu cette émergence, alors depuis un bon, presque depuis le début de l'émission, on parle de genre là, musicaux, mais là, c'était ce qu'on a nommé le néo-metal.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a eu d'un coup quelques groupes qui ont remodelé les contours des musiques plus extrêmes, plus tendues. Et Korn en premier lieu, mais il y a eu les Deftones, Limp Bizkit et Ross Robinson. Voilà, c'était vraiment celui qui a forgé aussi le son.
Okay.
Et alors, petite info comme ça, mais je pouvais dire que, par contre, c'était un sacré... presque un torsionnaire dans les studios parce que je pense qu'il poussait sa manière de travailler, c'était de pousser à bout les musiciens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes mais qu'ils soient vraiment dans un état assez second.
Très bien.
Et tendance à les pousser dans leur dernier retranchement. C'était sa méthode de travail.
Okay.
Bon. Est-ce que ça reste une légende urbaine ou pas ? Je sais pas.
Nous ne le saurons pas ici en tout cas.
Bon, voilà. Mais en tout cas, on va reconnaître d'ailleurs sa patte là, sur cet enregistrement.
Ok. Et encore une fois, bel album, je le décris parce que ça a le mérite, une jaquette transparente et une impression, un dessin de platine vinyle. Alors qu'on est sur un CD, le CD qui est en ce moment dans le lecteur a une tête, est imprimé façon vinyle et le reste de la boîte ressemble avec le bras
le bras
et
puis
c'est ça, le bras de lecture, tout ça, le petit diamant,
saphir.
un bel objet. On dirait vraiment une platine vinyle avec le saphir, exactement. On écoute Glass Joe et le morceau s'appelle Hape Dos Mil, issu de l'album Worship and Tribute.
Yeah, it's over, you can bet in mid-October I will still be ranting about most early May. Jay the winner is a goddamn sinner while he dines him on the wrong side of the day. And I said, I don't understand why I'm fumbling after you. The reason I cannot forget this season or the letter when you first referred to it. And I said, it's calculator. Understand why I fumble.
vient de s'écouter le groupe Glass Joe. L'album s'appelle Worship and Tribute avec le morceau Hype 2000. Voilà pour ce groupe.
Ils n'ont pas fait vraiment long feu. Hein. Je crois qu'il y a 3 albums en tout, okay, et pour tout. Donc là, on était en 2002. Eh bien, le groupe qui va suivre va pas faire mauvaise figure à côté d'ailleurs. parce qu'on va rester encore un peu dans cette mouvance dite néo-metal avec un groupe appelé Sugar Ray.
Ouais.
Oui, alors là, alors, c'est un peu des. C'est un peu le genre un peu sale gosse de Californie, voilà, qui à la fois s'amuse sur la plage et puis des fois sortent les crocs.
Ouais, bah moi, hein, la jaquette et puis l'imagerie de l'album, hein, me fait penser à toute cette mouvance de groupes, de gros groupes, hein, qui ont explosé, ouais, hein, The Offspring, Blink 182, etc. Hein.
Oui, alors c'est. Oui, bon, c'est. Oui, il y a aussi des éléments punk, hardcore, mm-hmm, mais aussi hip-hop. Bah, ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils font appel à un DJ, un peu comme dans la formation Limp Bizkit.
Ouais. Mm.
Voilà,
oui, toute cette veine-là,
ouais, on est là,
qui a explosé au milieu des années 90, ouais, qui a cartonné jusqu'au fin des années 2000, hein, ouais, qui était un genre très important.
Ouais, exactement. Qui peut-être d'ailleurs perdure. Hein. Ils ont fait 7 albums, j'ai compté.
Ouais.
Là, il s'agit du deuxième, on est quand même en 97. Hein. Mais c'est vrai qu'on était en plein boom de forme assez hybride, hein,
où ça
puisait un peu partout.
Ouais,
Voilà, et ben là, le titre en question, je trouve qu'il est, assez puissant, et voilà, il va donner la pêche pour affronter bientôt l'automne.
Sugar Ray, c'est le nom du groupe, le morceau RPM. L'album s'appelle Floored. On écoute ça tout de suite.
Yeah.
vient donc d'écouter Sugar Ray avec le morceau RPM. L'album s'appelle Floored. Et oui, bah voilà, on a bien compris, hein, effectivement, ce rock un peu pop, alors moins pop quand même que les groupes hein, qu'on citait, voilà, comme The Offspring, etc. Plus radical, en tout cas, voilà, un peu plus musclé, on va dire. Mais effectivement, qui brille, qui a hybridé un petit peu sa musique et qui détonne.
Eh bien, bon, l'heure de fin approche. On va terminer cette heure musicale avec deux extraits issus de deux bandes originales de films. Alors, bon, je les ai mises ensemble, ces deux BO, parce qu'elles sont ficelées de la même manière.
D'accord.
En fait, il s'agit avant tout de... On pourrait les considérer comme une compilation de groupes rock indé de cette époque, là,
ouais.
À nouveau dans les années 90. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Il y avait une manière de, comment dire, de concevoir des bandes originales de films en mettant à l'honneur la fine fleur du rock alternatif. Quoi. C'était un peu une mode.
Mm.
Je pense qu'il y a très longtemps, c'était peut-être même la première émission qu'on a faite ensemble, où j'avais passé un extrait de Judgment Night, la bande originale du film Judgment Night, où
ouais.
C'était la rencontre entre des acteurs hip-hop et rock.
Et rock, ouais, tout à fait.
Donc là, voilà, on est un peu dans cet esprit.
Alors là, tu nous as pris un film bien plus intéressant.
Je pense que par contre, cinématographiquement c'est plus concluant.
Ouais.
Donc là, c'est... Escape from L.A.
Alors j'ai regardé parce que
John Carpenter.
Ouais, c'est ça. Donc le film s'appelle Escape from L.A. en version originale, mais c'est la suite. Donc alors ça s'appelle Los Angeles 2013 pour les Français qui se souviendraient. Et c'est la suite d'un premier film de John Carpenter qui s'appelait New York 97 avec Kurt Russell dans le rôle culte de Snake Plissken. Voilà, on est dans la suite de ce premier film de John Carpenter. Cinéaste riche en films et en films cultes notamment.
Ah oui, maître de l'horreur en soi, puis aussi lui-même compositeur, hein, John Carpenter.
Qui fait la musique de ses films.
Il en fait. Et puis souvent il signe d'ailleurs ces musiques de films. Bon, bah là en
absolument.
L'occurrence, non.
Alors là c'est une compilation, effectivement.
Bon, voilà, moi je pense que c'était un coup marketing. Hein, mais en fait, ces musiques aussi permettaient, enfin ces musiques de films, permettaient de pour les groupes de se faire connaître.
Ouais.
C'était aussi un tremplin pour être entendu. Donc là, en l'occurrence, eh bien, j'ai choisi la troisième piste qui concerne le groupe White Zombie, qui derrière se cache Rob Zombie, qui lui-même
est un cinéaste.
Et cinéaste, voilà. Et qui fait aussi des films d'épouvante,
c'est
d'horreur.
Ça.
Et eh bien, on va être sur la même cadence, un peu le même tempo que le titre qu'on vient tout juste d'écouter de Sugar Ray.
On écoute donc, tu m'as dit White Zombie, donc le morceau s'appelle The One et on est sur donc la BO de Los Angeles 2013. qu'on vient donc de s'écouter un morceau, un titre qui fait partie de la BO de Los Angeles 2013, Escape from LA, donc de John Carpenter, le film. Et le morceau était donc du groupe White Zombie, ça s'appelait The Worm.
Ouais, voilà. Pour continuer dans les genres, on peut appeler cette veine musicale power metal à l'époque. Un peu bas comme Pantera, Prong, et voilà, côté assez vraiment bien heavy, mais il y a un côté sautillant là, que j'apprécie. Alors là, je vois des...
J'ai les yeux qui brillent.
Les yeux qui brillent. Pour le dernier extrait choisi, donc un extrait...
Tu t'es fait plaisir à toi, mais tu ne savais pas que tu me ferais plaisir à moi.
Bah, je n'en doutais pas. Un extrait donc issu de la bande originale du film Last Action Hero,
en français dans le texte aussi,
qui pour toi est une pépite.
Ouais, c'est ça, un film tout à fait mésestimé à sa sortie, qui est redevenu culte au gré de la pop culture qui passe par là, de l'âge et voilà, film de John McTiernan sorti au début des années 90. On est au summum de la carrière de Schwarzenegger, qui sort de Terminator 2 et de cette période là en tout cas, donc a installé Schwarzenegger à la fois comme action hero et aussi comme acteur vraiment John McTiernan pareil, qui sort de grands films d'action tels que Piège de cristal avec Bruce Willis, ce genre de choses. Donc les deux acteurs principaux et réalisateurs sont vraiment très reconnus et bien installés à Hollywood, et ce film va faire un flop. Il a été bien mal compris, l'histoire d'un jeune garçon qui traverse à la faveur d'un ticket de cinéma magique, qui traverse l'écran de cinéma et qui fait sortir son héros d'action préférée, donc qui est incarné par Arnold Schwarzenegger dans la vraie vie, on a un film complètement méta qui parle de cinéma et d'amour pour le cinéma, et c'est une super comédie d'action qui a été donc mal comprise à sa sortie et qui est redevenue culte depuis.
Bon, tu nous invites à le découvrir ou redécouvrir.
Mille fois.
Bon, à mon tour.
Parle-moi de la musique maintenant.
Alors, une bande originale de film conçue comme une compile.
Ouais.
Bon, moi, j'ai là. Je ne pouvais pas faire autrement, je le dis, mes chouchous, oui. Fishbone. Donc, j'ai choisi leur extrait pour cette bande originale, alors qui n'est pas un inédit. Hein. La chanson, en
existe l'occurrence, dans un autre album.
S'appelle Swim, et elle existe sur un de leurs disques, mais ce titre est irrésistible. C'est un des plus féroces de leur composition, mais qui marche du tonnerre. Alors Swim, parce que je sais pas, c'est certainement une invitation à aller se baigner, et en tout cas à se remuer. Et comme je l'ai déjà dit, je pense, une autre fois, si je devais emporter un album et un seul et unique
sur une île déserte... Tu l'as déjà dit, effectivement.
Oui, ce serait un disque de Fishbone.
Tout à fait.
Lequel, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je partirai.
Ce sera un Fishbone.
Fishbone, c'est sûr. En plus, je suis très heureux, c'est que... Alors, à la fois, aujourd'hui... il reste plus qu'un membre originel, Angelo Moore, qui tient la flamme. Malheureusement, le bassiste de Norwood Fisher est parti, mais lui continue quand même avec de nouveaux musiciens.
Donc on va s'écouter Fishbone avec Swim pour se dire au revoir et se dire rendez-vous le mois prochain. Tu me mets le DVD de côté, Jérôme, je passerai le chercher. Donc okay. Last Action Hero, donc de John McTiernan, et qui contient donc ce titre de Fishbones. On se retrouve le mois prochain avec un invité surprise.
Tout à fait.
On n'en dit pas plus.
Ouais. À bientôt.
Salut.
All right, here we go.